quand même pas se passer des lectures, puisque les groupes n'ont pas tous relu les paraboles dont on parle, donc pour quand même qu'on les ait en mémoire, on fait la petite lecture. Alors, donc, la première, c'est la parabole des trois amis. Hein, je ne sais pas si vous avez l'habitude de l'appeler comme ça, mais c'est la parabole des trois amis. Et c'est le chapitre 11, verset 5. Donc, que le groupe qui l'a regardé se prépare. Moi, je fais que la lecture. Hein. Chapitre 11, verset 5. Et il leur dit. Qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit et lui dise « Ami, prête-moi trois pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui présenter. » Et celui qui est dedans, répondant, dira « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. » Et mes enfants sont au lit avec moi, je ne puis me lever étant donné. Je vous dis que, bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu'il est son ami, pourtant, à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Et moi, je vous dis, demandez. Et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert.
Alors avec notre groupe, le sujet évoqué pour nous, c'était la prière. Donc il faut persévérer dans la prière. Donc, c'est on ne sait pas toujours quel besoin nous avons. Nous avons toujours un besoin présent. Donc nous devons persévérer dedans. Comme interprétation, on a vu qu'on n'était pas toujours conscient de nos réels besoins. Et pour ça, on s'est appuyé également sur Romains 8, verset 26. Donc, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Donc, on a également vu donc, dans notre interprétation qu'on peut s'adresser à Dieu en tout temps, sans l'importuner. Donc, là, on a vu dans le chapitre 11. Que pour nous, il y avait deux visages de Dieu. L'image que nous, on peut avoir, que donc cet ami qu'on dérangerait par nos demandes, alors que on peut lui demander en tout temps. Et jamais il se lassera de nos demandes. Et donc comme application qu'on a retenu, c'est il faut sans cesse prier, ne pas arrêter de demander et chercher, pas avoir une prière passive, mais chercher à heurter, toujours être dans la recherche de réponse.
Donc, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, ou toujours bienvenu. Et repérer les trois amis, hein, c'est pour ça qu'on a parlé la parabole des trois amis, et cette importunité, donc un mot un petit peu ancien, c'est une impolitesse en fait, c'est vraiment, il dérange. Et donc, c'est une parabole par contraste. Vous l'avez très bien dit, hein, les deux regards de Dieu, très très bien. Donc, parabole par contraste. Évidemment, Dieu ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui est dérangé. Donc ça, c'est vraiment important de voir ça. Et on le retrouvera tout à l'heure dans une autre. Ah, alors tu vois que deux amis, d'accord, et pourtant il y en a trois. Donc, il y en a un qui reçoit un ami. Ça fait déjà deux. D'accord? Et puis celui qui a reçu un ami, il va voir un autre ami, la nuit. Ça nous en fait trois. Et c'est pour ça, mais tu fais bien de le demander, tu vois, comme quoi? Hein, donc là, pour, là, pourquoi on l'appelle la parabole des trois amis? Parce qu'il y en a trois dans l'histoire. Il y a trois personnes. Il y a... Voilà, exactement. Celui qui a faim, celui qui demande et celui qui peut fournir. Ok? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Puisqu'il y a un autre passage qui mentionne que dans la prière, Dieu ne refusera pas l'esprit à celui qui donnera, mais c'est à la fin du paragraphe. Tout à fait. Absolument. Absolument. Trois pains et l'autre lui donne tout ce dont il a besoin. Prière précise aussi. Précision de la prière. Voilà une autre application. Trois pains. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Demander, chercher, heurter, une progression dans la demande. C'est vrai. Oui. Et donc, la persévérance, hein, le côté de la persévérance, et que Dieu n'est bien sûr pas dérangé par notre insistance, bien au contraire. C'est ça. Il donne au-delà, je répète hein, pour ceux qui n'entendent pas bien, il donne au-delà de ce que nous pourrions penser. Ok, donc on a passé les 5 minutes, je pense qu'il nous faut continuer à la suivante. Alors, l'homme riche et ses greniers, chapitre 12, verset 16. On peut commencer par le verset 15. « Voyez et gardez-vous de toute avarice, car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. » Et il leur dit une parabole, disant « Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits. » Et il dit « Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Et j'y assemblerai tous mes produits et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais grande chair. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu.
Bon, alors, on a donc, c'était l'histoire d'un, au départ, ça, l'histoire est racontée à la suite d'une question qui a été posée à Jésus. Donc, c'était pour un partage d'héritage. Et Jésus, donc, dira que, comment dirais-je, il n'est pas là, ici, il n'est pas venu sur terre pour s'occuper de ces problèmes-là. Les problèmes, il a dit, voilà, vous avez des juges. Et puis donc après, il va donc raconter cette histoire de cet homme riche. Donc il faut aussi l'apprendre, cette histoire au sens large, c'est-à-dire pour tout à chacun. Et donc en effet, on a dit que c'était un projet légitime, en fait, de vouloir travailler, faire des projets, et aussi peut-être viser la richesse, ou voilà. Et on voit que cet homme, il veut profiter à fond du fruit de son travail. Ensuite, il semble aussi, comme on a dit, être un petit peu le nombril de la terre, que le travail occupe toute sa vie. Et après, on verra aussi dans la suite de l'histoire, après ses projets, qu'il veut, le travail donc occupe toute sa vie, mais qu'après, dans ses projets, ça sera aussi, pas le travail, mais en fait la jouissance de la vie qui va aussi occuper toute sa vie. Donc on voit qu'il a occulté tout ce qui est son âme et Dieu. Ça c'est pour donc comprendre l'interprétation. Ensuite, pour l'application, alors on a dit, on a parlé de Matthieu 6, versets 19 à 21, donc aussi sur les richesses, où il est parlé des richesses. Et ensuite, on a dit que voilà, il faut cette richesse, qu'est-ce qu'on va en faire? En fait, la richesse en soi, c'est pas un péché. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette richesse? Et il faut donc le but de la richesse, au moins de nos richesses, de notre argent ou de nos dons, des choses comme ça, il faut la partager. Voilà, le but, c'est pas ne penser qu'à moi, parce qu'apparemment c'était un homme qui était avare et qui pensait qu'à lui. Donc, où est-ce que je pense qu'à moi? Mais il faut partager. Et après, il faut aussi penser à ce verset qui dit que si, un verset dans Jacques 4, au verset 13 et 15, que nos projets, c'est bien, mais nous, on doit penser que si le Seigneur le veut et le permet, nous ferons ceci ou cela. Voilà, les projets sont permis, mais ce sont toujours des projets qui doivent être en fait pour Dieu. Voilà. Et aussi, au sujet de Dieu qui lui dit, tu vas mourir, quoi. Cette nuit même, tu vas mourir. On dit aussi que, enseigne-nous à compter nos jours, dans le psaume 90. Et après aussi, on a dit, soyons heureux avec le Seigneur et notre avenir tourné vers lui et non vers nos possessions. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à dire. On peut rajouter si j'ai oublié, voilà, de noter certaines choses.
Merci. Est-ce que ça ressort à la fin de la parabole? À qui seront toutes ces choses? Et il y a dans cette parabole vraiment la notion de stock. On va faire du stock. Mais on le sait, pour ceux qui sont dans le business, le stock, ça sert à rien du tout si ça ne bouge pas. Il faut qu'un stock bouge. Et donc un stock doit se vider presque zéro, c'est possible, pas zéro, mais presque, et remonter, et être toujours renouvelé. C'est ça un bon stock. Et lui, il était dans « je vais casser tous mes greniers, tout reconstruire pour avoir un énorme stock ». Et il n'y a pas de vie. Et vous l'avez dit, il n'y a pas de vie dans le stock. Donc, les richesses ou les biens, c'est fait pour être donné. Et dans la multiplication des pains, vous remarquerez, en fait, qu'il n'y a pas de stock. C'est le Seigneur donne et donne et donne et donne et donne. En fait, il multiplie le don. On appelle ça la multiplication des pains, mais c'est la multiplication des dons. Il donne, il donne, il donne. Et en fait, le seul moment où il y a du stock, c'est à la fin, quand il n'y en a plus besoin. Hein, quand il y a les 12 paniers ou les 7 corbeilles. Donc, le stock ne sert à rien, il est mort, et c'est une parabole qui nous enseigne aussi à donner, à faire circuler et à ne pas amasser pour que ça soit stocké. C'est tout à fait valable, là, dans les applications, aussi pour l'aspect spirituel. Hein, si on est bien enseigné, eh bien, il faut le donner plus loin, pas tout garder pour soi-même, pour prendre cet exemple. Une autre pensée aussi, c'est le mot repos, hein, qui est le même que celui de Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, et moi, je vous donnerai du repos », donc on a du repos en Christ, et là, lui, il essayait de trouver son repos dans ses biens, et il croyait que les biens allaient lui donner le repos, justement, la tranquillité, et en fait, il se trompait de priorité. Et le Seigneur nous dit clairement, il en est ainsi de celui qui amasse les choses pour lui-même, il n'est pas riche quant à Dieu, il s'est trompé de priorité.
Peut-être une application pratique aussi. Une application pratique, c'est l'appréciation selon Dieu de ce qu'est véritablement la richesse. Une richesse qui donne du repos. Ici, c'est un homme qui pense que s'il a tout un tas de ressources, eh ben voilà, il peut se détendre. Et puis, il s'arrête avec sa pensée de l'avenir, comme un jeune estime qu'il a le temps de penser aux choses de Dieu, il a toute sa vie devant lui. Et puis Dieu dit, non, c'est fini pour toi. Cette nuit, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et puis ensuite, il est question d'être riche quant à Dieu. Le livre des Proverbes, au chapitre 8, verset 17 et suivant, je crois, nous indique quelles sont les vraies richesses. Et puis un petit livre, le livre d'Esdras, nous dit que quand on emmagasine des richesses selon l'appréciation de Dieu, ces choses sont soigneusement notées dans la réserve divine parce qu'elles sont là définitivement. Les choses de la terre, les choses matérielles, on s'en va, on les laisse, c'est fini. D'autres en profitent, se déchirent éventuellement, mais on les laisse. Mais les richesses spirituelles sont des richesses éternelles.
Intéressant de voir que l'âme, là, je veux dire, mon âme, fait beaucoup de bien en regard. C'est intéressant de voir l'âme, où est posée l'âme. Et pour nous, bien sûr, qui sont dans le chemin extraordinaire, notre âme est au-dessus de tout ce qui est. Et là, c'est intéressant de dire que finalement, comment on peut, bien sûr, cheminer sur ces. Cette logique matérielle, alors que l'âme appartient à Dieu, c'est par la prière, c'est par justement une relation personnelle avec son Seigneur. C'est toujours bien sûr la visibilité de tout ça, les âmes se posent. Mais là, c'est intéressant de dire, tiens, l'âme la pose là. C'est pas bon.
Ok, on va continuer. Le figuier stérile, chapitre 13, verset 6. Chapitre 13, verset 6. Or, il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Et il dit au vigneron, « Voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve point, coupe-le. Pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre ?» Et répondant, il lui dit, « Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier. Et peut-être portera-t-il du fruit. Sinon, après,
tu le couperas.
Alors, avec votre permission, je vais me faire le porte-parole de notre groupe, avec lequel j'ai été très heureuse de me pencher sur cette parabole. Donc, pour vraiment voir la compréhension de l'histoire, on peut se dire que quand on a un figuier dans sa vigne, automatiquement, ce qu'on espère trouver, c'est des figues, et que les figues sont très bonnes, très rassasiantes et donnent beaucoup d'énergie, et que vraiment elles réjouissent ceux qui peuvent les manger. Et dans l'histoire, donc, on voit qu'il y a le propriétaire, mais il y a aussi, il délègue, et il a un vigneron qui s'occupe de sa vigne, de son figuier, de ses affaires. Bon. Après, dans l'interprétation, on a réfléchi et on s'est dit que celui qui possède cette vigne et ce figuier, c'est Dieu, bien sûr, qui est le propriétaire de la vigne et du figuier. Et que le vigneron à qui il a confié sa vigne et son figuier, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui intercède pour nous. Et on a réfléchi, on s'est dit que le fruit que Dieu aimerait voir sur son figuier, ce figuier, ça peut être chacun de ceux que Dieu a créés, mais ça peut être aussi une nation, un État, ça peut être une église locale, enfin. Et que le fruit que Dieu aimerait voir sur ce figuier, c'est que sa volonté soit faite. Et quand Dieu vient, eh ben, il voit pas de fruit sur certains. Enfin, sur ce figuier en particulier. C'est un figuier en particulier. C'est un figuier particulier, il ne voit pas de fruits. Et donc, il décide de le couper. Mais le vigneron, qui est Jésus, intercède pour ce figuier et il lui dit que lui, il va s'en occuper. Donc pour nous, c'est Jésus qui s'occupe de nous, qui intercède, qui nous donne les soins. Donc, qui met du fumier. Et alors là, il me semble que les autres vont me dire. Alors, on a dit que ce fumier, ça peut être... C'est très riche, en fait, le fumier. Et Jésus peut s'occuper de nous en nous parlant à travers sa parole et à travers des paraboles hein, comme celle-ci. C'est la façon dont il fait pour qu'on puisse être amené à faire la volonté de Dieu, à nous guider par ses enseignements, nous guider par sa parole. Mais ça peut être aussi ce fumier, utiliser les choses qui nous paraissent nauséabondes et que des fois, on est reparti un petit peu sur l'idée de la dernière parabole qu'on avait vue avec vous, pour dire que l'argent, ça peut être le fumier nécessaire pour faire pousser des bonnes choses. Donc ça peut être ça aussi, les dons, ce que Jésus nous donne, ce que Jésus nous permet d'avoir. Et on avait vu aussi que Dieu nous a créés pour lui, en fait. C'est pas pour nous. Et que si on ne fait pas sa volonté, on est inutile quelque part sur la terre quand il a parlé de qu'est-ce que ce figuier fait là qui est inutile. Et si on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu, on est inutile sur la terre. Et on avait vu aussi que déchausser, creuser, Jésus creuse, il agit en nous pour enlever ce qui ne va pas, pour creuser tout autour, enlever tout ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, enlever tout ce qui gêne le péché et tout ce qui peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu et le remplir de lui, le remplir de ce qui va donner la vie à ce figuier, parce que lui, Jésus, c'est le pain de vie. Donc les applications, on a dit que quand on rencontre quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, on a besoin de ressembler à Jésus dans l'intercession pour l'autre. D'abord de commencer à prier pour l'autre et aussi après de partager la parole avec la personne. Et une autre application qu'on a vue, c'est de ne pas se décourager quand nos proches, ceux de nos familles sont loin de Dieu et font vraiment parfois même le contraire tout à fait de ce que Dieu désire, de pas nous décourager parce que Jésus, lui, il intercède pour eux, il s'avoue pas vaincu, il baisse pas les bras, même si nous, on a l'impression parfois qu'il n'y a rien à faire. C'est vraiment, il n'y a plus rien à faire, on a tout fait, il n'y a plus rien à faire, mais Jésus, lui, il n'arrête pas la bataille, il continue. Et c'est merveilleux de savoir que c'est ce qu'il fait.
Merci beaucoup. Donc Jean-Luc.
Une chose, c'est que dans Lévitique, dans Lévitique 19, il y a des questions à propos des arbres.
Il est allumé ?
Alors, je lui donne celui-là.
Non, c'est bon. C'est bon.
Comment je vous garderai le fruit comme un circoncis, c'est pas un circoncis, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on n'en mange pas. La quatrième année, c'est réservé à Dieu. Et c'est à partir de la cinquième année que c'est réservé pour payer. C'est-à-dire que cet arbre, ça fait déjà plus de 5 ans qu'il est stérile. Il est prouvé qu'il est stérile. Ce n'est pas une décision absolue. Et quand on lui propose, le vigneron propose de laisser encore une année et encore. En fait, c'est la grâce de Dieu qui permet qu'il y ait encore une année pour vous donner encore une occasion de porter. Mais ce n'est pas un arbre tout jeune, c'est un arbre qui a 3 ans, plus une année, plus encore une année. Et c'est plus que généreux de faire cela.
C'est plutôt une question que. Quand on lit voici 3 ans, est-ce que ça a un rapport avec le ministère de Jésus qui était pour son peuple, que pendant le temps qu'il y était, il n'y a pas eu de vie?
Oui, absolument. Absolument. Donc, même si. C'est pas contradictoire avec ce que vient de dire Jean-Luc. C'est pas contradictoire avec ce que vient de dire Jean-Luc, mais c'est vrai que peut-être une interprétation plus directe, vraiment, de la parabole. C'est dans le contexte de l'enseignement du Seigneur, comme le groupe l'a très bien identifié, Dieu est le propriétaire, Jésus est le vigneron, mais bien sûr, dans un contexte juif, un figuier en plus dans une vigne, c'est très 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 symbolique d'Israël, ça. Hein, il faudrait aller dans les prophètes pour le voir, mais enfin, un figuier dans une ville, c'est comme un double focus sur Israël. Et effectivement, il y a tout à fait la notion que le Seigneur a œuvré en Israël pendant 3 ans, et il n'y a pas de fruits, et on sait que dans le chemin
Jérusalem, entre Béthanie et Jérusalem, dans la semaine de la Passion, il va passer devant un figuier, et il pensait pouvoir trouver des fruits, et il n'y avait pas de fruits, et il va le maudire, pas pour faire un caprice, mais pour faire un autre signe, pour faire une forme de parabole vivante, avec le figuier qui va être stérile, parce qu'il est, puni de ne pas porter du fruit. On attendait du fruit, il n'y en a pas. Mais il y a toute la notion de patience et de persévérance qui vient d'être dite, qui est magnifique, avec ce côté que il fait comme si, c'est très touchant, il y a beaucoup d'humilité même dans la part du Seigneur, de proposer de déchausser. Pour déchausser, il faut se mettre à genoux, il faut être au pied de l'arbre, poser le fumier. Et c'est comme même s'il disait, j'ai pas encore fait assez. Mais c'est un bon jardinier, il a sûrement tout fait ce qu'il fallait. Mais voilà, je vais encore faire ça. Et puis, c'est une parabole ouverte. Comme le fils aîné, on ne sait pas s'il est rentré. Hein. Et donc, c'est une parabole ouverte où on ne sait pas si on va couper après les 3 ans. Mais c'est sûrement vraiment en interprétation, alors, Israël qui n'a pas porté de fruits et le Seigneur qui travaille pendant 3 ans. Mais alors, après plein d'applications donc qui ont déjà été données sur notre propre prière pour les autres, sur le fait qu'on peut être patient, que ça peut durer des années, comme vous l'avez très bien dit, jusqu'à ce que quelqu'un se convertisse. Et puis pareil pour aussi, nous aussi, ce côté humilité, déchausser, fumier, patience. Et puis voilà, cette question qu'on se pose à chacun, est-ce que j'occupe utilement la terre ? Hein, si le Seigneur me met là, quel est mon service pour lui ? On ne va pas juste être planté là à occuper inutilement la terre, on doit être là pour être à son service. Et il y a tous les services possibles qui ont des dimensions de toutes les manières possibles. Dieu est immensément créatif, comme vous le savez, et donc tous les services sont possibles. Mais par contre, être là juste planté, bien sûr, ça nous parle. Hein.
Une question au verset 8, le vigneron dit maître.
Oui.
Donc, si le vigneron représente le Seigneur...
Oui, son maître, c'est Dieu.
C'est Dieu.
Oui.
C'est en parlant de Dieu qu'il dit maître.
C'est ça.
Parce qu'on pourrait penser que c'est le vigneron qui dit au Seigneur maître. Et le vigneron pourrait être autre chose que le Seigneur, non ?
Non, a priori, si on... Dans l'interprétation, ça serait plutôt... Effectivement, comme ça a été dit, il y a un propriétaire et un vigneron. Le propriétaire, c'est Dieu, et vigneron, c'est le Seigneur. Oui. Voilà. Il nous faudrait passer à la suivante, mais il y a quand même une petite remarque là-bas.
Une petite remarque parce qu'on a un pilier depuis plus de 15 ans qui en fait n'a pratiquement jamais donné du fruit à cause, bien sûr, d'un mauvais terrain. On a apporté tout ce qu'il fallait et aujourd'hui, il donne du fruit. Je voulais juste simplement dire, c'est que là, on n'habite pas s'il y a beaucoup de fruit, mais simplement du fruit. C'est intéressant parce que des fois, nous, personnellement, dans nos églises, on dit, tiens, celui-là, on n'a pas l'impression que... Et en fait, il faut aussi être humble pour recevoir que chacun porte du fruit.
Tout à fait. Alors, la tour et les deux rois. C'est celle qu'on... Laquelle avons-nous groupée avec la drachme perdue ? Non, hein, la tour et les deux rois étaient indépendants. Donc la tour et les deux rois, chapitre 14, verset 28. Alors il faut en fait démarrer au verset 26. 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. 2 fois. Car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement, et ne calcule la dépense, pour voir s'il a de quoi l'achever. De peur que, en ayant jeté le fondement, et n'ayant pu l'achever, Tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Ou quel est le roi qui, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'asseye premièrement et ne délibère s'il peut, avec 10 000 hommes, résister à celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, pendant qu'il est encore loin, il lui envoie une ambassade et s'informe des conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. 3.
Alors, on avait commencé à lire, nous, au verset 25, et on avait été jusqu'au verset 35.
Très bien, vous avez bien fait.
Je sais pas, en tout cas, on l'a fait. Au verset 25, on voit que le Seigneur parle à la foule qui le suivait. Au verset 26, on voit que, pour être disciple du Seigneur, il faut tout rejeter, sa vie, sa famille. Verset 27, pour être un disciple du Seigneur, il faut renoncer, il faut porter sa croix. On a pris donc cette image, si on la comprend bien, c'est celui qui est condamné à mort. Donc on a dit que porter sa croix, c'était renoncer à toute ambition et tout avenir personnel. Ensuite, on va parler de la tour. S'asseoir et calculer avant d'agir. Pour bâtir une tour. Alors je vais vous le dire tout de suite, on n'était pas tous d'accord sur les deux paraboles. Mais je vais vous dire ma version et je vous dirai vite fait après celle des autres. Et les deux rois, et une petite armée et une grande armée, et pareil, il faut réfléchir avant de faire la guerre, et être prêt à payer pour faire la paix. Donc, encore une question de coût. Ensuite, au verset 33, on voit qu'il faut renoncer à tout pour être un disciple de Jésus. Et au verset 34-35, on a la même conclusion qui a été donnée à la parabole précédente, donc c'est bien. Si le sel n'a pas de saveur, il est bon d'être jeté. Et on vient d'entendre, si on ne porte pas de fruits pour Dieu, on est inutile sur la terre. Donc pour interpréter, verset 26, on a dit que rejeter, haïr, il dit haïr, on a dit que ça pouvait être prêt à renoncer. Donc il est parlé de la paix, père, mère, femme, enfant, frère, sœur et sa vie. C'est aussi faire passer après, donc faire passer Jésus avant, préférer Jésus à cela. Et dans la pratique, ça peut avoir pour les autres une apparence de haine. Mais on sait qu'on n'est pas appelé à haïr sa famille. Donc pour la tour, donc on calcule qu'est-ce qu'il faut dépenser pour la bataille, combien ça va coûter de faire la paix, puisque de toute manière 10 000 contre 20 000, c'est calculé. Et poursuivre être disciple de Jésus, donc on est appelé à calculer ce qu'il faut dépenser. Et donc le prix nous est donné. Renoncer à tout, vos familles, votre vie, votre avenir, votre plan de carrière, tout le reste. Pour les retraités, il n'y a pas de plan de carrière. Une autre interprétation, c'était, de toute manière, il faut construire la tour. Donc vous pouvez vous asseoir et calculer avant, vous n'avez pas les moyens. De toute manière, il faut gagner la bataille. Vous êtes deux fois moins nombreux, vous avez perdu. Donc votre seul espoir, c'est d'avoir foi en Jésus, qui vous donnera de quoi construire une tour et remporter une bataille.
Superbe. Superbe.
Alors, tu peux venir ici, alors sinon.
Juste un petit mot sur le verbe haïr, qui surprend des fois hein, quand il est écrit ici. Donc, bien que le Nouveau Testament ait été écrit en grec,
Bien que le Nouveau Testament soit écrit en grec, il est pensé par des gens qui réfléchissaient hébreu. Et le mot hébreu qui est traduit par haïr, c'est le mot sana, avec un chin au début, il y a deux lettres pour dire S, mais qui veut dire plutôt aimer moins. Et j'en prends pour preuve, si je ne me trompe pas, à la fin du chapitre 29 de la Genèse, quand il est question de Léa et de Rachel, il est dit que Léa était haïe de Jacob. Jacob, il n'a jamais haï Léa, mais il a aimé moins Léa que Rachel. Et donc je pense que la signification, c'est ce que Pierre-Gilles a relevé tout à l'heure, c'est une question de priorité. Voilà, c'est bien d'abord le Seigneur et ensuite les autres.
Là-bas, au fond. Viens ici. C'est peut-être un peu hors contexte, mais c'est une pensée qui m'a toujours frappé, c'est que dans toutes les paraboles, le Seigneur ne se dérobe pas à la sagesse qu'il enseigne. Et je m'étais posé la question, dans la parabole des deux rois, quand le Seigneur il enseigne cette parabole, où est-ce qu'il se l'est appliqué? Et j'ai l'impression que, avant de créer le monde, le Seigneur s'est assis quelque part, si je peux dire ça comme ça, et il a calculé la dépense. Pourquoi je dis ça? Parce que le plan de Dieu, c'est un plan extrêmement émotionnel, parce qu'il va lui coûter beaucoup. Et quand il parle de cette parabole du renoncement, de quitter sa famille, de quitter sa gloire, de quitter son confort, de porter une croix, il se l'est appliqué à lui-même. Il y a un jour dans les temps d'éternité où il a réfléchi ce concept du calcul de la dépense. Et effectivement, le roi qui était en face de lui, la Bible le nomme l'homme fort. Donc ça allait coûter très cher pour battre l'homme fort. Et cette dépense, c'était quoi? Ni plus ni moins que son sang, le sacrifice de son corps. Et c'est peut-être cet exemple suprême que le Seigneur appelle ceux qui lui appartiennent de réaliser.
Dans le groupe, vous avez très bien noté les trois, il ne peut être mon disciple, dont vous savez dans un paragraphe biblique, quand vous avez une répétition double, ça suffit pas, hein, parce que pour tracer une droite, bien sûr qu'il faut quand même trois points pour dire qu'ils soient alignés, parce que deux, c'est toujours aligné dans n'importe quel sens. Mais dès qu'il y en a trois, alors là, il faut ouvrir ses yeux et chercher. Et là, effectivement, on a trois fois. Donc, c'est la structure du paragraphe. C'est vraiment, comme tu viens de dire, la parabole, le contexte sur le renoncement. Et à partir, il y a cette croix. Donc, c'est vraiment, c'est très humiliant. Hein. C'est, il n'y a plus d'espérance dans le monde. Je vais mourir. Donc, c'est porter sa croix. Ce qui fait que quand même, ça nous aide, je pense, à comprendre quand il est parlé de celui qui veut bâtir une tour de peur qu'on se moque de lui. Quand même, ça serait un petit peu étonnant, mais ça serait un petit peu étonnant dans un enseignement sur le renoncement, où on compte entièrement sur Dieu, ça serait un petit peu étonnant que l'idée soit, est-ce que j'ai assez mis de côté d'argent pour pas qu'on se moque de moi ? Un petit peu bizarre. Donc, c'est peut-être bien plus ce qui a été proposé aussi, de se dire, oui, c'est superbe de vouloir bâtir une tour, c'est pas une maison, hein, c'est une tour. C'est l'évangile, c'est le témoignage, c'est visible de loin, c'est un grand projet. Hein, le Seigneur nous invite à une grande mission. Mais oui, on a bien sûr qu'on n'a pas assez pour la bâtir. Et c'est les hommes d'entre vous qui, d'entre vous, ça c'est la référence humaine de dire on va faire des comptes, on va vérifier qu'on y arrive, etc. On va essayer de ne pas être ridicule, on va être professionnel. Tout ça c'est le monde, finalement. Et la vie avec le Seigneur, c'est la vie de foi où, si on s'engage dans ce beau projet, on veut le finir, bien sûr. Mais on n'a pas assez. Et le Seigneur doit absolument nous aider. Il faut tourner nos yeux vers lui. Et pareil avec les deux armées, l'histoire de la condition de paix, c'est comme tu l'as très bien dit, si c'est l'homme fort, si c'est le diable qui arrive avec sa grosse armée, il n'est pas question de faire un pacte avec lui, pas question d'accepter les conditions de paix. Il faut absolument foncer avec le Seigneur, mais on n'a que 10 000. Et on a absolument besoin de lui. Donc il me semble que c'est, elle est plutôt à prendre dans ce sens-là, mais enfin on peut bien sûr réfléchir. Et on est donc encouragé à renoncer et à lui faire confiance et à ne pas appliquer les méthodes classiques du monde. Faire confiance à Dieu, c'est s'abandonner. Bertrand Audéou utilise l'expression « je m'appuie, mais en déséquilibre sur le Seigneur ». Comme si je bascule, je m'appuie sur lui et je suis en déséquilibre sur lui, je vais basculer dans ses bras. Monsieur Bruins disait « je m'abandonne dans ses bras », s'abandonner. Voilà. On retrouve avec, effectivement, le premier, les affections, le second, la conduite, le troisième, les possessions, et puis, voilà. Donc, on passe à la suivante. Donc, la suivante, c'est, voilà, la drachme perdue, et c'est elle qu'on va grouper avec l'esclave qui revient des champs. D'accord ? Et on fera après l'homme riche et Lazare. Donc d'abord, la drachme perdue, 15, verset 8. Ou quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle perd une drachme, n'allume la lampe et ne balaye la maison, et ne cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et l'ayant trouvée, elle assemble les amis et les voisines, disant, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Ainsi je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et puis on l'avait groupée parce qu'elle était assez courte, avec 17, verset 7. 17, verset 7. Mais qui est celui d'entre vous qui, ayant un esclave labourant ou paissant le bétail, quand il revient des champs, disent « Avance-toi de suite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire « Apprête-moi à souper et ceins-toi et me sers jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela tu mangeras et tu boiras toi. » Est-il obligé à l'esclave de ce qu'il a fait, ce qui avait été commandé? Je ne le pense pas. Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites, nous sommes des esclaves inutiles, ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait.
Bien. Voilà, alors pour ce qui est du récit, je crois que il est, comme tu dis, il est court et puis il est simple, donc il n'y a pas besoin de le reprendre, hein. C'est tout simple. Cette femme avait 10 drachmes, tu l'avais signalé tout à l'heure, qu'en en perdant une, elle perd un dixième de son trésor, donc c'est quand même important. Et elle développe toute son énergie pour retrouver cette pièce. Et elle persévère jusqu'au bout. Et puis ensuite, elle se réjouit de l'avoir trouvée et partage sa joie avec les amis, les voisines. Quant à l'interprétation, il me semble que le verset 10 la donne, hein, là encore. Elle est donnée par le Seigneur. Hein. Ainsi, donc voilà, il explique... Je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, le Seigneur explique que ce récit concerne un pécheur qui se repent et la joie que cela procure dans le ciel. Ce qu'il n'explique pas, c'est qu'est-ce que représente la femme. Mais bon, on y a réfléchi un peu. Et donc, dans l'interprétation... Si on développe un peu, on peut penser que cette femme, surtout si on regarde l'ensemble du chapitre 15, représente le Saint-Esprit à l'œuvre pour convaincre le pécheur, trouver, aller à la recherche du pécheur, le convaincre de se repentir. Et parce que dans le chapitre 15, on a l'habitude de voir dans la première parabole, le Seigneur Jésus, à la recherche de la brebis perdue. Dans la troisième, le Père, qui retrouve son fils perdu. Donc voilà, c'était un peu logique de mettre, pour cette parabole-là qui est au milieu, l'action de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Donc, voilà ce que pourrait représenter, dans une première interprétation, cette parabole. Maintenant, les applications, bon, on n'en a pas, peut-être pas trouvé cinq, hein, désolé, mais on va... Je rapporte celles qu'on a trouvées entre nous. On pourrait dire aussi que cette action de recherche d'une âme perdue, ça peut être aussi l'action d'un serviteur de Dieu, qui est à la recherche des âmes perdues, d'un évangéliste ou même simplement d'un serviteur qui veut mettre en œuvre la mission que le Seigneur nous a donnée, de parler de lui autour de nous. Voilà, il cherche une âme perdue. Alors, la lumière dont il est fait allusion dans la parabole, ce serait la lumière de la parole de Dieu, la lumière du Saint-Esprit qu'on apporte, et puis cette énergie aussi, cette persévérance nous parle. Est-ce que on est capable de mettre de l'énergie, de mettre de côté déjà notre timidité, bon je parle d'abord pour moi, de mettre aussi, d'oublier notre manque de persévérance qui malheureusement existe aussi. Deuxième application, dans cette parabole comme dans les deux autres du chapitre, il est beaucoup question de la joie, lié à une âme qui se repent, à quelqu'un qui était perdu et qui est retrouvé. Enfin, quelqu'un. Ça peut être la brebis, ça peut être la drachme, ça peut être le fils. Le fait que, justement que là il s'agisse de la drachme, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça souligne le côté que le pécheur n'a pas par lui-même le moyen de s'approcher de Dieu. Il est inerte, comme une pièce sous un lit ou sous une armoire, ne peut pas se mettre elle-même au grand jour. Alors cette joie, donc, pour revenir à cette application-là, elle peut être la joie d'abord de celui qui a trouvé l'âme, qui a été à l'origine de la conversion. Ça, c'est quelque chose qui est donné à celui qui a ce privilège de voir une âme se tourner vers le Seigneur par son moyen. Ça peut être une joie partagée par l'Église, par la famille, quand ça se passe dans la famille aussi, parce que c'est un aspect auquel on a pensé, hein, mais que je développerai après. Et puis la joie dont le Seigneur parle, c'est la joie dans le ciel aussi. Voilà. Troisième application, la pièce perdue, ça peut être... Alors ce qui fait penser à ça, c'est que la scène se passe dans une maison. C'est pas à l'extérieur. On a vu beaucoup de choses se passer à l'extérieur dans les paraboles. Là, c'est dans une maison. On s'est demandé ce que ça voulait dire, cette maison. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Mais ça peut être, par exemple, un enfant dans une famille qui s'est éloigné. Parce que cette pièce, elle était avec les 9 autres avant. Donc, peut-être ça représente quelqu'un qui appartenait même au Seigneur, mais qui est devenu inutile. Une pièce dans la poussière, ça ne sert plus à rien. Pourtant, c'est toujours une pièce. Donc, ça peut être ça. Un enfant qui s'est égaré, ça peut être un membre d'une église aussi qui a pris un mauvais chemin. Et alors, par la prière, par l'action du Saint-Esprit, cette âme peut être retrouvée, et alors la famille ou l'Église, les deux bien sûr, se réjouissent. Voilà. Sur la deuxième, je ne sais pas si on a quelque chose à rajouter. Et les anges, oui, dans le ciel. Oui, exact. Bon, sur la deuxième, je me rappelle simplement qu'on a eu le temps de dire que, juste deux ou trois mots, l'esclave qui revient des champs et qui, même s'il en avait envie, n'a pas le loisir de se reposer parce que son maître lui dit « Maintenant, tu vas me servir. » Eh bien, a priori, le maître paraît très dur. Ça paraît difficile. Hein, mais on a essayé de se mettre dans le contexte de l'époque. Un esclave, il appartient à son maître corps et âme, et il n'a rien à exiger de son maître, et il n'a même pas de récompense à attendre. Ce n'est pas un salarié. Il n'a pas de récompense à attendre. Donc, c'est exactement ce que dit le Seigneur à la fin, hein, ce que le maître dit, ben, l'esclave le fait, et puis c'est tout. Voilà, c'est un peu difficile à comprendre aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, ceux qui entendaient ça pouvaient très bien le comprendre. Et l'application, je cite juste ça parce qu'on a eu le temps de le dire dans la dernière minute, c'est que nous aussi, dans notre service pour le Seigneur, nous ne pouvons pas le faire en vue d'une récompense. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, ça c'est un autre sujet, mais on ne le fait pas en vue d'une récompense.
Quand le berger, il a 99 brebis chez lui, après tout, c'est l'homme qui n'a pas qui se contente pas d'avoir 99 brebis, parce que chaque brebis a de la valeur. Et quand il revient, il parle de ma brebis que j'avais perdue. Et c'est ce qui est important pour lui, c'est la valeur que cette brebis a pour lui. La drachme, ce n'est pas une pièce, ce n'est pas un louis d'or. Ce n'est pas une pièce de grande valeur. Mais par contre, pour la femme, elle a beaucoup de valeur. Et ce qui est extraordinaire, au fond, c'est que la valeur que nous avons chacun pour Dieu, c'est une valeur très grande, puisqu'il a payé par la mort de son fils. Et c'est extrêmement rassurant. Et puis, bien sûr, il y a l'histoire qu'on a vue du père. Chaque fils a sa valeur. Et pour lui, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et par rapport à mon père dans le ciel, c'est tout à fait le cas. Ensuite, pour l'esclave, je ne sais pas, c'est... dans cette partie-là, il me semble que c'est toute cette série parle de la foi, différents aspects de la foi. Et là, la foi, elle se fait connaître par l'obéissance, par le dévouement, l'abnégation, l'humilité, il n'y a aucun problème. Mais on ne fait pas les choses pour quelque chose, on le fait pour celui qui est notre maître en fin de compte. Et puis, il y a le verset 10 que j'aime beaucoup. Souvent on dit d'une façon très pieuse, je ne suis qu'un esclave inutile et personnellement j'ai toujours une très mauvaise pensée, je me confesse mes frères et sœurs. J'ai envie de féliciter celui qui dit ça, parce qu'il est écrit, quand vous aurez tout fait ce qui vous a été commandé, alors dites, vous êtes un esclave inutile. Donc j'ai envie de dire, mon cher frère, ma chère sœur, t'as tout fait. Moi, j'ai pas tout fait, en tout cas. Mais donc, la fidélité ne donne aucun droit supplémentaire, ni une quelconque motif de se glorifier. Tu as fait ce qui t'a été demandé.
Voilà, et c'est celui d'entre vous qui a un esclave. Donc c'est votre façon de fonctionner, comme tu l'as dit. Et bien sûr, le Seigneur lui fonctionne autrement. Au chapitre 12, on voit que il se mettra lui-même à servir quand on entrera. Donc il donnera des récompenses, elles ne seront pas méritées, et on ne peut pas estimer qu'on y a droit parce qu'on a servi. Donc on passe à Luc 16. L'homme riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre, verset 19, et de fin lin, et qui faisait joyeuse chair chaque jour, splendidement. Et il y avait un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, et qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, et fut enseveli. Et en Hadès, levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi !» Et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux, et maintenant lui est consolé ici, et toi tu es tourmenté. Et outre tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, en sorte qu'il les adjure, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Mais Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscité d'entre les morts.
Alors nous avons ici un homme riche comme celui de tout à l'heure et il vient d'aller de vie à trépas. Et nous avons, dans l'image qui est représentée, il y a l'homme riche qui est à sa table et en bas de la table avec les chiens. On sait que dans le Moyen-Orient, le chien, ça n'avait pas beaucoup de valeur. Il y a Lazare, le pauvre. J'insiste sur la hauteur, riche, pauvre. Alors, il y a deux façons de vie, le riche et le pauvre. Nous devons prendre conscience que les richesses n'apportent rien et que le pauvre a ses épreuves. Alors, à propos des souffrances de ce Lazare, on peut interpréter que les souffrances qu'il a, qu'il traverse, ne sont pas des malédictions. Au contraire, quand l'homme riche est dans le Hadès, il y a des souffrances qui sont des malédictions. On peut aussi sortir un choix à faire dans nos vies aujourd'hui. C'est pas la parole nous dit que nous devons en faire un choix. Après cela, après la mort, le jugement, on ne vit qu'une fois. Il est aussi parlé dans cette parabole de l'écoute. Il nous faut écouter. Quand l'homme riche fait sa demande, la réponse est il a Moïse, les prophètes, qui les écoutent. Ça nous est rappelé aussi dans d'autres parties de la parole, dans l'Apocalypse, au niveau des 5-7 églises, qu'elles écoutent, que ceux qui ont des oreilles écoutent. Ensuite, on a relevé la consolation. Cette consolation qui lui est apportée à Lazare, maintenant qu'il est dans le sein d'Abraham, et là on voit l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, le riche qui est dans l'Hadès lève les yeux vers Abraham, et Lazare qui a été recueilli dans le sein d'Abraham, et lui il est resté sur la terre. Car Lazare a été emmené par les anges, et lui il est enseveli sur la terre. Donc il y a une moralité là-dedans, c'est que quand on vit que pour la terre, on a ce que la terre mérite, on est enseveli, on n'a pas la vie après. Il y a aussi, souligné aussi le jugement. Il nous est parlé du jugement. Et effectivement, c'est le fait qu'on vit qu'une fois, et après cela le jugement. Et il y a eu ce jugement qui était là, et on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas eu d'écoute de la part du riche. Il ne vit que pour les moments terrestres. On peut souligner ce qui est dit dans la parole. Mangeons, buvons, et après cela, mourons. Et ensuite, ce qui est important, il y a le témoignage. C'est la fin de ce passage. C'est demandé. Mais il dit non. Mais Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais il dit, non, père Abraham, si quelqu'un va des morts vers eux. Or, la parole nous souligne que quand on est mort, on ne peut pas faire appel aux morts. On a l'exemple de Saül, qui ne peut pas, qui a fait revenir Samuel, et on sait très bien ce qu'il en a été pour lui. Alors, les morts, ils sont morts, c'est définitif. Ils nous apportent rien. Les morts ne nous apportent rien. Ils ne viennent pas nous dire, il faut réfléchir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Et cette fin se termine et lui dit, s'ils n'écoutent Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. C'est là, prophétiquement, Jésus leur parle de sa propre mort, de sa résurrection. Et n'ont pas écouté non plus.
Une différence dans cette parabole par rapport à toutes les autres, c'est qu'il y a un nom, Lazare. C'est la seule où il y a un nom. C'est pour ça que certains disent, c'est pas une parabole, c'est une histoire. Mais comme on a vu, il y en a plein d'autres qu'on a lues aujourd'hui, que c'était aussi des histoires. Donc c'est tout de la même matière, mais c'était sûrement une histoire, et il a mis un nom. Voilà, on va terminer avec
Le juge inique et la veuve et le pharisien et le publicain, qui c'est un tout, puisque dans le même paragraphe, au chapitre 18, donc, au chapitre 18, verset 1. Il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. Disons. Il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Et dans cette ville-là, il y avait une veuve, et elle alla vers lui, disant « Venge-moi de mon adversaire ». Et il ne le voulut pas pour un temps, mais après cela, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu, et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice, de peur que revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. » Et le Seigneur dit « Écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience avant d'intervenir pour eux? Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?»
Cette parabole est le pendant de la première qu'on a étudiée cet après-midi, des trois amis. Et donc, elle nous parle, le corps de cette parabole nous présente donc une veuve, une personne qui était vraiment tout en bas de la société, qui n'avait aucun pouvoir, qui n'avait aucun revenu, qui était vraiment assimilée au rebut de la société. Un juge inique qui, lui, n'écoutait personne, ne respectait pas Dieu. Écoutez, peut-être, comme c'est un juge unique, parler l'argent ou l'influence, mais n'écoutez certainement pas les personnes comme cette veuve. Et donc, le Seigneur Jésus nous donne le sens de cette parabole. Au début, il nous dit, faites une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Et donc, si cette veuve arrive à force d'usure à convaincre le juge de juger pour elle, a fortiori, combien nous ne serions pas nous entendus par notre Dieu qui nous aime et qui nous a choisis avant la fondation du monde, puisqu'il nous parle, il parle de ses élus lorsqu'il viendra. Ne vengera-t-il pas ses élus qui croient à lui, qui crient à lui jour et nuit lorsqu'il quoi qu'il diffère de ses héritiers. Il repousse sa colère pour l'instant. Et on a fait une remarque à cet effet que cette parabole se situe dans une partie de l'évangile de Luc, juste après où le Seigneur Jésus a évoqué les temps de la fin, le jugement dernier et les tribulations de la fin des temps. Et il nous dit qu'il faut persévérer. Donc, le sens de cette parabole est évident, puisque le Seigneur Jésus nous le donne dès l'entrée, prier sans se lasser, persévérer dans la prière, toujours prier, jour et nuit. Et les applications, on en a trouvé quelques-unes. Prier sans cesse, ne pas se lasser, ne pas se fatiguer de prier, et prier avec foi, bien sûr, puisque si notre prière n'est pas inspirée par la foi, Dieu ne l'entendra pas. Dieu n'est pas un juge comme ce juge, il ne se lasse pas, aucune prière n'est insignifiante, il n'y a rien qui soit trop petit, rien qui soit trop grand pour Dieu, il entend tout et il comprend tout. Et nous pouvons lui présenter toutes nos requêtes, et il ne faut surtout jamais désespérer, jamais se lasser. Plusieurs personnes ont pensé que cette parabole aussi pouvait faire allusion aux personnes qui prient Dieu sans le connaître et qui le cherchent, et à qui Dieu se révèle de façon miraculeuse, comme on le voit dans certains récits. Et donc, on avait parlé de ça, on avait dit que c'est la prière de celui qui cherche Dieu avec persévérance, il finira par se révéler à eux. Voilà, c'est ce qu'on avait dit en gros.
Écoutez, d'agir plus en notre faveur. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend humbles, mais qui nous rend plein de reconnaissance envers lui.
La parabole, bien sûr, Dieu ne ressemble pas du tout au juge, il est bien sûr beaucoup plus grand encore, et il n'est pas inique, il est bienveillant, il veut notre bien, et donc toute l'invitation à persévérer. Par contre, il y a la notion de patience, donc on voit, il va intervenir parce que sinon ça va lui rompre la tête, parce que ça l'agace, et bien sûr notre Dieu, si des choses prennent du temps, c'est pas une question d'agacement, c'est une question qu'il est au contraire patient. Hein, il use de patience pour eux. Donc il y a tout l'aspect durée, il y a des exemples aussi dans l'Ancien Testament de réponses à des prières, même qui durent du temps, et les 3 semaines dans le livre de Daniel, pour prendre cet exemple. Voilà, Dieu est patient, et donc s'il y a du retardement à des choses qui se passent, eh bien on continue à se battre dans la prière, il est bienveillant, il veut notre bien, et si ça ne se passe pas tout de suite, c'est qu'il y a de bonnes raisons, il est patient avant d'intervenir. Et donc on termine avec le verset 9. Donc vous aurez remarqué la construction, mais ça a bien été souligné. Hein. Une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier et ne pas se lasser. Au verset 9, on lit maintenant, il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confient en eux-mêmes. Et ce matin, on a lu la troisième, qui est la dernière, ici au chapitre 19. Et il leur dit une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. Donc elles font un peu un tout, ces trois-là, avec chaque fois une explication, une raison pour laquelle il leur a donné. Et donc, il dit aussi une parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes, comme s'ils étaient justes, et qui tenaient le reste des hommes pour rien. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Et le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frapper la poitrine, disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, le pécheur. Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
C'est une parabole que nous connaissons tous, que l'on connaît bien. Alors pour comprendre l'histoire, je crois qu'on a la réponse dans le premier verset qui a été lu. Il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et qui tenaient le reste des hommes pour rien. Alors on voit deux hommes qui montent au temple pour prier, deux personnes différentes. Un pharisien et le publicain. Le pharisien, probablement, on peut dire qu'il y a deux classes sociales différentes. On peut dire aussi qu'il y a deux attitudes qui sont totalement différentes. Quand on voit ce qui est dit du pharisien, il se tenait à l'écart, priant lui-même en ces termes, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Et il donne toutes ces explications qui sont ravisseurs, injustes, adultères, en disant « Heureusement que je ne suis pas comme ça. » Et puis le publicain, qui nous fait penser comme Zachée, qui est un collecteur d'impôts, donc c'était une classe aussi méprisée, on pourrait dire, puisqu'il collectait les impôts pour les Romains, donc il n'était pas apprécié du tout, et lui, il a une attitude qui est complètement différente. Quand il dit, ça frappe la poitrine, et il dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Il se reconnaît comme tel. Et pour comprendre cette histoire, on voit que dans la suite, effectivement, celui qui est justifié, c'est celui qui se reconnaît pécheur. Alors l'interprétation, On a dit que ce qui résume vraiment cette interprétation, c'est le verset 14. « Je vous dis que celui-ci descendit à sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Ça résume parfaitement ce qui est l'interprétation que l'on peut apporter ici. Alors, au niveau application pratique, on en a trouvé 5. On a cherché pour en trouver 5. Alors, la première, on a dit « attention à l'orgueil ». Parce qu'on peut être très facilement des pharisiens. Très facilement. On a dit aussi ne pas se comparer. Surtout si l'on pense être au-dessus des autres. Il nous est bien dit, il faut estimer son frère supérieur à soi-même. Une troisième application aussi que l'on peut tirer, c'est ne pas être légaliste. Pensez aussi qu'on peut, enfin, surtout on peut se dire qu'on peut reconnaître les dons des autres. Reconnaître les dons des autres. Ça, c'est aussi important. Et puis, surtout, peut-être, c'est ce qu'on a dit en dernier, c'est regarder à la grâce de Dieu. Ce qu'il est capable de faire. Et on est tous les objets de sa grâce. Sans exception. Tous ceux qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre sauveur, on est vraiment les objets de cette grâce divine. Alors, regardons toujours à la grâce de Dieu ce qu'elle est capable de faire.
Qui est très important pour moi et pour beaucoup de gens de mon milieu. Il s'agit du major Alain, le major Jean César, un homme de Dieu, un géant de Dieu pour moi, que je connais depuis mon enfance et qui a marqué l'Armée du Salut tout entière, de son enseignement, de son témoignage, de sa grâce. Il nous a appris vraiment ce qu'est l'amour de Dieu, ce qu'est la grâce. Je m'en rappellerai toujours de lui à cause d'une phrase qu'il a dit, et j'étais au début en déshérence à Paris. Il m'a dit une phrase, il a dit une phrase que j'ai prise pour moi et qui est en sujet ici. Je ne connais personne qui, ayant demandé la foi à Dieu, qui ne l'ait reçue. Voilà. C'était pour moi une phrase fondatrice. Non seulement fondatrice pour moi, mais il a été, cet homme-là, pour moi, fondateur, comme il a été pour l'ensemble de tout un mouvement dont j'ai vu que vous aviez, d'ailleurs, dans la librairie, un livre qui relate l'expression du fondateur de ce mouvement qui s'appelle l'Armée du Salut, William Booth, dont vous avez en librairie le livre. Et pour moi, Jean César, c'est un géant de la foi. Voilà. Et la grâce, tout par grâce, c'est aussi le titre d'un livre de Spurgeon que j'ai lu aussi. Et moi-même, je me considère comme le larron sur la croix. Je ne crois qu'à la grâce. Voilà.
Mais c'est ce que le publicain pourrait exprimer lui aussi. Il ne le sait pas. Lui, il ne le sait pas. Il est allé voir, il est allé prier. Il se tient loin. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il est humble devant Dieu. On a eu la prière sévérante au début du chapitre, là, avec la veuve, et on a maintenant la prière humble. Et en fait, le Seigneur dit qu'il est rentré justicier, mais bien sûr, c'est un message qu'on aurait pouvoir lui annoncer à ce monsieur, parce que finalement, il ne le sait pas. On aimerait pouvoir lui annoncer, effectivement, qu'il est justifié par l'œuvre du Seigneur. Voilà, on a fini. Donc, il est déjà 5h moins 7. Hein. Peut-être qu'il faudrait s'arrêter là. Oui. Bon, oui, mais c'est pas à ce tour-ci. À ce tour-ci, les gens sont fatigués. Non, je pense qu'on a vu, on a fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, on peut se rester sur ce nous encourage d'ailleurs, ce message de il rentre justifié. C'est finalement le message que nous annonçons, hein, la bonne nouvelle que nous annonçons, c'est ça. C'est ce que Dieu, il a une aventure avec chaque homme. On a vu que le serviteur contraint les gens d'entrer. On a vu que la femme cherche la pièce. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous, on est là pour annoncer finalement la compréhension de tout cela, annoncer que ce pardon, il est complet, annoncer que ce pardon, il est basé sur l'œuvre du Seigneur. Tout est prêt. L'invitation est ouverte pour une grande fête. Et vous vous souvenez que Dieu ne nous invite pas à une fête au rabais. C'est une très grande fête à laquelle il invite. Il y a des renoncements. On l'a vu avec les paraboles sur le renoncement. Oui, c'est clair. Mais c'est une grande fête et il nous invite à une vie en abondance.
Peut-être juste chanter le 111 des reflets, grâce admirable pour rester sur cette belle note finale.
Grâce admirable, agrément la dignité, qui je suis libéré. Grâce admirable, maintenant je peux changer, purifier la paix de tous mes péchés. Je donne ma vie, tout ce que je suis,
Amen.